Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, première partie, autour de Madame Swann. Ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois Monsieur de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur, mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, avec sa manière de crier sur les toits ses moindres relations, était un vulgaire esbroufeur, que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, puant. Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication, certaines personnes se souvenant peut-être d'un Cottard bien médiocre et d'un Swann poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse en matière mondaine, la modestie et la discrétion. Mais pour ceux qui regardent celui-ci, il était arrivé qu'au fils Swann et aussi au Swann du jockey, l'ancien ami de mes parents avait ajouté une personnalité nouvelle et qui ne devait pas être la dernière, celle de Marie d'Odette. Adaptant aux humbles ambitions de cette femme l'instinct, le désir, l'industrie qu'il avait toujours eue, il s'était ingénié à se bâtir, fort au-dessous de l'ancienne, une position nouvelle et appropriée à la compagne qu'il occuperait avec lui. Or, il s'y montrait un autre homme. Puisque tout en continuant à fréquenter seul ses amis personnels à qui il ne voulait pas imposer Odette quand il ne lui demandait pas spontanément à la connaître, c'était une seconde vie qu'il commençait, en commun avec sa femme, au milieu d'êtres nouveaux. On eût encore compris que pour mesurer le rang de ceux-ci et par conséquent le plaisir d'amour-propre qu'il pouvait éprouver à les recevoir, il se fût servi comme un point de comparaison, non pas des gens les plus brillants qui formaient sa société avant son mariage, mais des relations antérieures d'Odette. Mais quand on savait que c'était avec d'inélégants fonctionnaires, avec des femmes tarées, parures des bals de ministère, qu'il désirait se lier, on était étonné de l'entendre, lui qui autrefois et même encore aujourd'hui dissimulait si gracieusement une invitation de Twickenham ou de Buckingham Palace, faire sonner bien haut que la femme d'un sous-chef de cabinet était venue rendre sa visite à Madame Swann. On dira peut-être que cela tenait à ce que la simplicité du Swann élégant n'avait été chez lui qu'une forme plus raffinée de la vanité, et que, comme certains Israélites, l'ancien ami de mes parents avait pu présenter tour à tour les états successifs par où avaient passé ceux de sa race, depuis le snobisme le plus naïf et la plus grossière goujaterie, jusqu'à la plus fine politesse. Mais la principale raison, et celle-là applicable à l'humanité en général, était que nos vertus elles-mêmes ne sont pas quelque chose de libre, de flottant, de quoi nous gardions la disponibilité permanente. Elles finissent par s'associer si étroitement dans notre esprit avec les actions à l'occasion desquelles nous nous sommes fait un devoir de les exercer, que si surgit pour nous une activité d'un autre ordre, elle nous prend au dépourvu, et sans que nous ayons seulement l'idée qu'elle pourrait comporter la mise en œuvre de ces mêmes vertus. Swann empressé avec ses nouvelles relations, et les citant avec fierté, était comme ces grands artistes, modestes ou généreux, qui, s'ils se mettent à la fin de leur vie à se mêler de cuisine ou de jardinage, étalent une satisfaction naïve, des louanges qu'on donne à leurs plats ou à leurs plates-bandes, pour lesquels ils n'admettent pas la critique, ils acceptent aisément, s'il s'agit de leur chef-d'œuvre, ou bien qui, donnant une de leurs toiles pour rien, ne peuvent en revanche, sans mauvaise humeur, perdre 40 sous au domino. Quant au professeur Cottard, on le verra longuement, beaucoup plus loin, chez la patronne, au château de la Raspelière. qu'il suffise actuellement à son égard de faire observer ceci. Pour Swann, à la rigueur, le changement peut surprendre puisqu'il était accompli et non soupçonné de moi quand je voyais le père de Gilberte aux Champs-Élysées, où d'ailleurs, ne m'adressant pas la parole, il ne pouvait faire étalage devant moi de ses relations politiques. Il est vrai que s'il l'eût fait, je ne me fusse peut-être pas aperçu tout de suite de sa vanité, car l'idée qu'on s'est faite longtemps d'une personne bouche les yeux et les oreilles. Ma mère, pendant 3 ans, ne distingua pas plus le fard qu'une de ses nièces se mettait aux lèvres que s'il eût été invisiblement dissous entièrement dans un liquide, jusqu'au jour où une parcelle supplémentaire, ou bien quelque autre cause, amena le phénomène appelé sursaturation. Tout le fard non aperçu cristallisa, et ma mère, devant cette débauche soudaine de couleurs, déclara, comme on eût fait à Combray, que c'était une honte, et cessa presque toute relation avec sa nièce. Mais pour Cottard, au contraire, l'époque où on l'a vu assister au début de Swann chez les Verdurin était déjà assez lointaine. Or, les honneurs, les titres officiels, viennent avec les années. Deuxièmement, on peut être illettré, faire des calembours stupides et posséder un don particulier qu'aucune culture générale ne remplace, comme le don du grand stratège ou du grand clinicien. Ce n'est pas seulement en effet comme un praticien obscur devenu à la longue notoriété européenne que ses confrères considéraient Cottard. Les plus intelligents d'entre les jeunes médecins déclarèrent, au moins pendant quelques années, car les modes changent étant nées elles-mêmes du besoin de changement, que si jamais ils tombaient malades, Cottard était le seul maître auquel ils confieraient leur peau. Sans doute ils préféraient le commerce de certains chefs plus lettrés, plus artistes, avec lesquels ils pouvaient parler de Nietzsche, de Wagner. Quand on faisait de la musique chez Madame Cottard, aux soirées où elle recevait, avec l'espoir qu'il devint un jour doyen de la faculté, les collègues et les élèves de son mari, celui-ci, au lieu d'écouter, préférait jouer aux cartes dans un salon voisin. Mais on vantait la promptitude, la profondeur, la sûreté de son coup d'œil, de son diagnostic. En troisième lieu, en ce qui concerne l'ensemble de façons que le professeur Cottard montrait à un homme comme mon père, remarquons que la nature que nous faisons paraître dans la seconde partie de notre vie n'est pas toujours, si elle l'est souvent, notre nature première développée ou flétrie, grossie ou atténuée. Elle est quelquefois une nature inverse, un véritable vêtement retourné. Sauf chez les Verdurin qui s'étaient engoués de lui, les résistants de Cottard, sa timidité, son imbabilité excessive, lui avaient dans sa jeunesse valu de perpétuels brocards. Quel ami charitable lui conseilla l'air glacial. L'importance de sa situation lui rendit plus aisé de le prendre, partout, sinon chez les Verdurin, où il redevenait instinctivement lui-même, il se rendit froid, volontiers silencieux, péremptoire quand il fallait parler, n'oubliant pas de dire des choses désagréables. Il put faire l'essai de cette nouvelle attitude devant des clients qui, ne l'ayant pas encore vu, n'étaient pas à même de faire des comparaisons et eussent été bien étonnés d'apprendre qu'il n'était pas un homme d'une rudesse naturelle. C'est surtout à l'impassibilité qu'il s'efforçait, et même dans son service d'hôpital, quand il débitait quelques-uns de ces calembours qui faisaient rire tout le monde, du chef de clinique au plus récent externe, il le faisait toujours sans qu'un muscle bougeât dans sa figure, d'ailleurs méconnaissable depuis qu'il avait rasé barbe et moustache. Disons pour finir qui était le marquis de Norpois. Il avait été ministre plénipotentiaire avant la guerre et ambassadeur au 16 mai, et malgré cela, au grand étonnement de beaucoup, chargé plusieurs fois depuis de représenter la France dans des missions extraordinaires. et même comme contrôleur de la dette en Égypte, où, grâce à ses grandes capacités financières, il avait rendu d'importants services. Par des cabinets radicaux qu'un simple bourgeois réactionnaire se fût refusé à servir et auxquels le passé de M. de Norpois, ses attaches, ses opinions, eussent dû le rendre suspect. Mais ces ministres avancés semblaient se rendre compte qu'ils montraient par une telle désignation quelle largeur d'esprit était la leur dès qu'il s'agissait des intérêts supérieurs de la France, se mettaient hors de pair des hommes politiques en méritant que le journal des débats lui-même les qualifiât d'hommes d'État et bénéficiaient enfin du prestige qui s'attache à un nom aristocratique et de l'intérêt qu'éveille comme un coup de théâtre un choix inattendu. Et il savait aussi que ces avantages, il pouvait, en faisant appel à M. de Norpois, les recueillir sans avoir à craindre de celui-ci un manque de loyalisme politique contre lequel la naissance du marquis devait non pas les mettre en garde, mais les garantir. Et en cela, le gouvernement de la République ne se trompait pas. C'est d'abord parce qu'une certaine aristocratie, élevée dès l'enfance à considérer son nom comme un avantage intérieur que rien ne peut lui enlever, et dont ses pères, ou ceux qui sont de naissance plus haute encore, connaissent assez exactement la valeur, sait qu'elle peut s'éviter, car il ne lui ajouterait rien, les efforts que, sans résultat ultérieur appréciable, font tant de bourgeois pour ne professer que des opinions bien portées et ne fréquenter que des gens bien pensants. En revanche, soucieuse de se grandir aux yeux des familles princières ou ducales au-dessous desquelles elle est immédiatement située, cette aristocratie sait qu'elle ne le peut qu'en augmentant son nom de ce qu'il ne contenait pas, de ce qui fait qu'à nom égal, elle prévaudra une influence politique, une réputation littéraire ou artistique, une grande fortune. Et les frais dont elle se dispense à l'égard de l'inutile obro recherché des bourgeois et de la stérile amitié duquel un prince ne lui saurait aucun gré, elle les prodiguera aux hommes politiques, fussent-ils francs-maçons, qui peuvent faire arriver dans les ambassades ou patronner dans les élections, aux artistes ou aux savants dont l'appui aide à percer dans la branche où ils priment, à tous ceux enfin qui sont en mesure de conférer une illustration nouvelle ou de faire réussir un riche mariage. Mais en ce qui concernait M. de Norpois, il y avait surtout que dans une longue pratique de la diplomatie, il s'était imbu de cet esprit négatif, routinier, conservateur, dit « esprit de gouvernement », et qui est en effet celui de tous les gouvernements, et en particulier sous tous les gouvernements, l'esprit des chancelleries. Il avait puisé dans la carrière, l'aversion, la crainte et le mépris de ces procédés plus ou moins révolutionnaires et à tout le moins incorrects que sont les procédés des oppositions. Sauf chez quelques illettrés du peuple et du monde, pour qui la différence des genres est lettre morte, ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits. Un académicien du genre de Le Gouvet, et qui serait partisan des classiques, eût applaudi plus volontiers à l'éloge de Victor Hugo par Maxime Ducamp ou Mézières qu'à celui de Boileau par Claudel. Un même nationalisme suffit à rapprocher Barrès de ses électeurs, qui ne doivent pas faire grande différence entre lui et M. Georges Berry, mais non de ceux de ses collègues de l'Académie qui, ayant ses opinions politiques, mais un autre genre d'esprit, lui préféreront même des adversaires comme messieurs Ribaud et Deschanel, dont à leur tour de fidèles monarchistes se sentent beaucoup plus près que de Maurras et de Léon Daudet, qui souhaitent cependant aussi le retour du roi. Avare de ces mots, non seulement par pli professionnel de prudence et de réserve, mais aussi parce qu'ils ont plus de prix, offrent plus de nuances aux yeux d'hommes dont les efforts de 10 années pour approcher de pays se résument, se traduisent, dans un discours, dans un protocole, par un simple adjectif, banal en apparence, mais où il voit tout un monde, Monsieur de Norpois passait pour très froid à la commission, où il siégeait à côté de mon père, et où chacun félicitait celui-ci de l'amitié que lui témoignait l'ancien ambassadeur. Elle étonnait mon père tout le premier, car étant généralement peu aimable, il avait l'habitude de n'être pas recherché en dehors du cercle de ses intimes, et l'avouait avec simplicité. Il avait conscience qu'il y avait dans les avances du diplomate un effet de ce point de vue tout individuel, où chacun se place pour décider de ses sympathies, et d'où toutes les qualités intellectuelles ou la sensibilité d'une personne ne seront pas auprès de l'un de nous qu'elle ennuie ou agace une aussi bonne recommandation que la rondeur et la gaieté d'une autre, qui passerait aux yeux de beaucoup pour vide, frivole et nul. De Norpois m'a invité de nouveau à dîner. C'est extraordinaire. Tout le monde en est stupéfait à la commission, où il n'a de relations privées avec personne. Je suis sûr qu'il va encore me raconter des choses palpitantes sur la guerre de 70. Mon père savait que seul peut-être Monsieur de Norpois avait averti l'empereur de la puissance grandissante et des intentions belliqueuses de la Prusse, et que Bismarck avait pour son intelligence une estime particulière. Dernièrement encore, à l'opéra, pendant le gala offert au roi Théodose, les journaux avaient remarqué l'entretien prolongé que le souverain avait accordé à M. de Norpois. Il faudra que je sache si cette visite du roi a vraiment de l'importance, nous dit mon père qui s'intéressait beaucoup à la politique étrangère. Je sais bien que le père Norpois est très boutonné, mais avec moi il s'ouvre si gentiment. Quant à ma mère, peut-être l'ambassadeur n'avait-il pas par lui-même le genre d'intelligence vers lequel elle se sentait le plus attirée. Et je dois dire que la conversation de M. de Norpois était un répertoire si complet des formes surannées du langage particulière à une carrière, à une classe et à un temps qui, pour cette carrière et cette classe-là, pourrait bien ne pas être tout à fait aboli, que je regrette parfois de n'avoir pas retenu purement et simplement les propos que je lui ai entendu tenir. J'aurais ainsi obtenu un effet de démodé à aussi bon compte et de la même façon que cet acteur du Palais Royal, à qui on demandait où il pouvait trouver ses surprenants chapeaux, et qui répondait « Je ne trouve pas mes chapeaux, je les garde. » En un mot, je crois que ma mère jugeait M. de Norpois un peu vieux jeu, ce qui était loin de lui sembler déplaisant au point de vue des manières, mais la charmait moins dans le domaine, sinon des idées, car celle de M. de Norpois était fort moderne, mais des expressions. Seulement, elle sentait que c'était flatter délicatement son mari que de lui parler avec admiration du diplomate qui lui marquait une prédilection si rare. En fortifiant dans l'esprit de mon père la bonne opinion qu'il avait de M. de Norpois, et par là en le conduisant à en prendre une bonne aussi de lui-même, elle avait conscience de remplir celui de ses devoirs qui consistait à rendre la vie agréable à son époux. Comme elle faisait quand elle veillait à ce que la cuisine fût soignée et le service silencieux. Et comme elle était incapable de mentir à mon père, elle s'entraînait elle-même à admirer l'ambassadeur pour pouvoir le louer avec sincérité. D'ailleurs, elle goûtait naturellement son air de bonté, sa politesse un peu désuète, et si cérémonieuse que qu'en marchant en redressant sa haute taille, il apercevait ma mère qui passait en voiture, avant de lui envoyer un coup de chapeau, il jetait au loin un cigare à peine commencé. Sa conversation si mesurée, où il parlait de lui-même le moins possible, et tenait toujours compte de ce qui pouvait être agréable à l'interlocuteur, sa ponctualité tellement surprenante à répondre à une lettre que, quand venant de lui en envoyer une, mon père reconnaissait l'écriture de M. de Norpois sur une enveloppe, son premier mouvement était de croire que, par mauvaise chance, Leur correspondance s'était croisée. On eût dit qu'il existait pour lui, à la poste, des levées supplémentaires et de luxe. Ma mère s'émerveillait qu'il fût si exact, quoique si occupé, si aimable, quoique si répandu, sans songer que les « quoique » sont toujours des « parce que » méconnus, et que, de même que les vieillards sont étonnants pour leur âge, les rois pleins de simplicité et les provinciaux au courant de tout, c'étaient les mêmes habitudes qui permettaient à M. de Norpois de satisfaire à tant d'occupations et d'être si ordonné dans ses réponses, de plaire dans le monde et d'être aimable avec nous. De plus, l'erreur de ma mère, comme celle de toutes les personnes qui ont trop de modestie, venait de ce qu'elle mettait les choses qui la concernaient au-dessous et par conséquent en dehors des autres. La réponse qu'elle trouvait que l'ami de mon père avait eu tant de mérite à nous adresser rapidement, parce qu'il écrivait par jour beaucoup de lettres, elle l'acceptait de ce grand nombre de lettres dont ce n'était que l'une. De même, elle ne considérait pas qu'un nez chez nous fût pour M. de Norpois un des actes innombrables de sa vie sociale. Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois dans la diplomatie à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions et à y déployer une grâce invétérée dont c'eût été trop lui demander de se départir par extraordinaire quand il venait chez nous. Le premier dîner que M. de Norpois fut à la maison, une année où je jouais encore aux Champs-Élysées, est resté dans ma mémoire parce que l'après-midi de ce même jour fut celui où j'allais enfin entendre la Berma en matinée dans Phèdre, et aussi parce qu'en causant avec M. de Norpois, je me rendis compte tout d'un coup et d'une façon nouvelle combien les sentiments éveillés en moi par tout ce qui concernait Gilbert Swann et ses parents différaient de ce que cette même famille faisait éprouver à n'importe quelle autre personne. Ce fut sans doute en remarquant l'abattement où me plongeait l'approche des vacances du jour de l'an, pendant lesquelles, comme elle me l'avait annoncé elle-même, je ne devais pas voir Gilberte, qu'un jour, pour me distraire, ma mère me dit « Si tu as encore le même grand désir d'entendre la Berma, je crois que ton père permettrait peut-être que tu y ailles. Ta grand-mère pourrait t'y emmener. » Mais c'était parce que M. de Norpois lui avait dit qu'il devrait me laisser entendre la Berma, que c'était pour un jeune homme un souvenir à garder, que mon père, jusque-là si hostile à ce que je lasse perdre mon temps à risquer de prendre du mal pour ce qu'il appelait, au grand scandale de ma grand-mère, des inutilités, n'était plus loin de considérer cette soirée préconisée par l'ambassadeur comme faisant vaguement partie d'un ensemble de recettes précieuses pour la réussite d'une brillante carrière. Ma grand-mère, qui en renonçant pour moi au profit que selon elle j'aurais trouvé à entendre la Berma, avait fait un gros sacrifice à l'intérêt de ma santé, s'étonnait que celui-ci devint négligeable sur une seule parole de M. de Norpois. Mettant ses espérances invincibles de rationaliste dans le régime de grand air et de coucher de bonheur qui m'avait été prescrit, elle déplorait comme un désastre cette infraction que j'allais y faire, et sur un ton navré disait « Comme vous êtes léger !» à mon père qui, furieux, répondait « Comment ? C'est vous maintenant qui ne voulez pas qu'il y aille ? C'est un peu fort, vous qui nous répétiez tout le temps que cela pouvait lui être utile. » Mais M. de Norpois avait changé sur un point bien plus important pour moi les intentions de mon père. Celui-ci avait toujours désiré que je fusse diplomate, et je ne pouvais supporter l'idée que, même si je devais rester quelque temps attaché au ministère, je risquasse d'être envoyé un jour comme ambassadeur dans des capitales que Gilberte n'habiterait pas. J'aurais préféré revenir au projet littéraire que j'avais autrefois formé et abandonné au cours de mes promenades du côté de Guermantes. Mais mon père avait fait une constante opposition à ce que je me destinasse à la carrière des lettres qu'il estimait fort inférieure à la diplomatie. lui refusant même le nom de carrière, jusqu'au jour où M. de Norpois, qui n'aimait pas beaucoup les agents diplomatiques des nouvelles couches, lui avait assuré qu'on pouvait, comme écrivain, s'attirer autant de considérations, exercer autant d'actions et garder plus d'indépendance que dans les ambassades. Eh bien, je ne l'aurais pas cru. Le père Norpois n'est pas du tout opposé à l'idée que tu fasses de la littérature, m'avait dit mon père. Et comme assez influent lui-même, il croyait qu'il n'y avait rien qui ne s'arrangeât, ne trouva sa solution favorable dans la conversation des gens importants, je le ramènerai dîner un de ces soirs en sortant de la commission. Tu causeras un peu avec lui pour qu'il puisse t'apprécier. Écris quelque chose de bien que tu puisses lui montrer. Il est très lié avec le directeur de la Revue des Deux Mondes. Il t'y fera entrer. Il réglera cela. C'est un vieux malin. Et ma foi, il a l'air de trouver que la diplomatie, aujourd'hui... Le bonheur que j'aurais à ne pas être séparé de Gilberte me rendait désireux, mais non capable d'écrire une belle chose qui pût être montrée à M. de Norpois. Après quelques pages préliminaires, l'ennui me faisant tomber la plume des mains, je pleurais de rage en pensant que je n'aurais jamais de talent, que je n'étais pas doué, et ne pourrais même pas profiter de la chance que la prochaine venue de M. de Norpois m'offrait de rester toujours à Paris. Seule l'idée qu'on allait me laisser entendre la Berma me distrayait de mon chagrin. Mais de même que je souhaitais voir des tempêtes que sur les côtes où elles étaient les plus violentes, de même je n'aurais voulu entendre la grande actrice que dans un de ses rôles classiques où Swann m'avait dit qu'elle touchait au sublime. Car quand c'est dans l'espoir d'une découverte précieuse que nous désirons recevoir certaines impressions de nature ou d'art, nous avons quelques scrupules à laisser notre âme accueillir à leur place des impressions moindres qui pourraient nous tromper sur la valeur exacte du beau. La Berma, dans Andromaque, dans Les Caprices de Marianne, dans Phèdre, c'était de ces choses fameuses que mon imagination avait tant désirées. J'aurais le même ravissement que le jour où une gondole m'emmènerait au pied du Titien des Frari ou des Carpaccio de San Giorgio degli Schiavoni. Si jamais j'entendais réciter par la Berma les vers, on dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur, etc. Je les connaissais par la simple reproduction en noir et blanc qu'en donnent les éditions imprimées, mais mon cœur battait quand je pensais, comme à la réalisation d'un voyage, que je les verrais enfin baigner effectivement dans l'atmosphère et l'ensoleillement de la voie dorée. Un Carpaccio à Venise, la Berma dans Phèdre, chef-d'œuvre d'art pictural ou dramatique, que le prestige qui s'attachait à eux rendait en moi si vivant, c'est-à-dire si indivisible, que si j'avais été voir Carpaccio dans une salle du Louvre ou la Berma dans quelques pièces dont je n'aurais jamais entendu parler, je n'aurais plus éprouvé le même étonnement délicieux d'avoir enfin les yeux ouverts devant l'objet inconcevable et unique de tant de milliers de mes rêves. Puis attendant du jeu de la Berma des révélations sur certains aspects de la noblesse, de la douleur, il me semblait que ce qu'il y avait de grand, de réel dans ce jeu, devait l'être davantage si l'actrice le superposait à une œuvre d'une valeur véritable, au lieu de broder en somme du vrai et du beau sur une trame médiocre et vulgaire. Enfin, si j'allais entendre la Berma dans une pièce nouvelle, il ne me serait pas facile de juger de son art, de sa diction, puisque je ne pourrais pas faire le départ entre un texte que je ne connaîtrais pas d'avance et ce que lui ajouterait des intonations et des gestes qui me sembleraient faire corps avec lui. Tandis que les œuvres anciennes que je savais par cœur m'apparaissaient comme de vastes espaces réservés et tout près où je pourrais apprécier, en pleine liberté, les inventions dont la Berma les couvrirait, comme à fresque, des perpétuelles trouvailles de son inspiration. Malheureusement, depuis des années qu'elle avait quitté les grandes scènes et faisait la fortune d'un théâtre de boulevard dont elle était l'étoile, elle ne jouait plus de classiques, et j'avais beau consulter les affiches, elle n'annonçait jamais que des pièces toutes récentes fabriquées exprès pour elle par des auteurs en vogue. Quand un matin, cherchant sur la colonne des théâtres les matinées de la semaine du jour de l'an, j'y vis pour la première fois, en fin de spectacle après un lever de rideau probablement insignifiant, dont le titre me sembla opaque parce qu'il contenait tout le particulier d'une action que j'ignorais, deux actes de Fèvre avec Madame Berma et aux matinées suivantes, le demi-monde, les caprices de Marianne. Nom qui, comme celui de Phèdre, était pour moi transparent, rempli seulement de clarté, dont l'œuvre m'était connue, illuminé jusqu'au fond d'un sourire d'art. Il me parut rajouter de la noblesse à Madame Berma elle-même, quand je lus dans les journaux, après le programme de ces spectacles, que c'était elle qui avait résolu de se montrer de nouveau au public dans quelques-unes de ses anciennes créations. Donc l'artiste savait que certains rôles ont un intérêt qui survit à la nouveauté de leur apparition ou au succès de leur reprise. Elle les considérait, interprétés par elle, comme des chefs-d'œuvre de musée qu'il pouvait être instructif de remettre sous les yeux de la génération qui l'y avait admiré ou de celle qui ne l'y avait pas vu. En faisant afficher ainsi, au milieu de pièces qui n'étaient destinées qu'à faire passer le temps d'une soirée, Phèdre, dont le titre n'était pas plus long que les leurs et n'était pas imprimé en caractères différents, elle y ajoutait, comme le sous-entendu d'une maîtresse de maison, qui, en vous présentant à ses convives au moment d'aller à table, vous dit au milieu des noms d'invités qui ne sont que des invités, et sur le même ton qu'elle a cité les autres, Monsieur Anatole France. Le médecin qui me soignait, celui qui m'avait défendu tout voyage, déconseilla à mes parents de me laisser aller au théâtre. J'en reviendrais malade, pour longtemps peut-être, et j'aurais en fin de compte plus de souffrance que de plaisir. Cette crainte eût pu m'arrêter si ce que j'avais attendu d'une telle représentation eût été seulement un plaisir, qu'en somme une souffrance ultérieure peut annuler par compensation. Mais de même qu'au voyage à Balbec, au voyage à Venise que j'avais tant désiré, ce que je demandais à cette matinée c'était tout autre chose qu'un plaisir, des vérités appartenant à un monde plus réel que celui où je vivais, et desquelles l'acquisition une fois faite ne pourrait pas m'être enlevée par des incidents insignifiants, fussent-ils douloureux à mon corps, de mon oiseuse existence. Tout au plus le plaisir que j'aurais pendant le spectacle m'apparaissait-il comme la forme peut-être nécessaire de la perception de ces vérités. Et c'était assez pour que je souhaitasse que les malaises prédits ne commençassent qu'une fois la représentation finie, afin qu'il ne fût pas par eux compromis et faussé. J'implorai mes parents, qui depuis la visite du médecin ne voulaient plus me permettre d'aller à Phèdre. Je me récitais sans cesse la tirade « On dit qu'un bon départ vous éloigne de nous ». Cherchant toutes les intonations qu'on pouvait y mettre, afin de mieux mesurer l'inattendu de celle que la Berma trouverait. Caché comme le Saint des Saints sous le rideau qui me l'a dérobé et derrière lequel je lui prêtais à chaque instant un aspect nouveau, selon ceux des mots de Bergotte dans la plaquette retrouvée par Gilberte qui me revenait à l'esprit, noblesse plastique, cilice chrétien, pâleur janséniste, princesse de Trézène et de Clèves, drame mycénien, symbole delphique, mythe solaire, la divine beauté que devait me révéler le jeu de la Berma nuit et jour sur un autel perpétuellement allumé, trônait au fond de mon esprit dont mes parents sévères et légers allaient décider s'ils enfermeraient ou non, et pour jamais, les perfections de la déesse dévoilée à cette même place où se dressait sa forme invisible. Et les yeux fixés sur l'image inconcevable, Je luttais du matin au soir contre les obstacles que ma famille m'opposait. Mais quand ils furent tombés, quand ma mère, bien que cette matinée eût lieu précisément le jour de la séance de la commission après laquelle mon père devait ramener dîner M. de Norpois, m'eût dit « Eh bien, nous ne voulons pas te chagriner. Si tu crois que tu auras tant de plaisir, il faut y aller. » Quand cette journée de théâtre jusque-là défendue ne dépendit plus que de moi, alors pour la première fois, n'ayant plus à m'occuper qu'elle cessât d'être impossible, je me demandais si elle était souhaitable, si d'autres raisons que la défense de mes parents n'auraient pas dû m'y faire renoncer. D'abord, après avoir détesté leur cruauté, leur consentement me les rendait si chers que l'idée de leur faire de la peine m'en causait à moi-même une, à travers laquelle la vie ne m'apparaissait plus comme ayant pour but la vérité, mais la tendresse, et ne me semblait plus bonne ou mauvaise que selon que mes parents seraient heureux ou malheureux. J'aimerais mieux ne pas y aller si cela doit vous affliger, dis-je à ma mère qui, au contraire, s'efforçait de m'ôter cette arrière-pensée qu'elle put en être triste, laquelle, disait-elle, gâterait ce plaisir que j'aurais à Phèdre, et en considération duquel elle et mon père étaient revenus sur leur défense. Mais alors cette sorte d'obligation d'avoir du plaisir me semblait bien lourde. Puis, si je rentrais malade, serais-je guéri assez vite pour pouvoir aller aux Champs-Élysées, les vacances finies, aussitôt qu'y retournerait Gilberte? À toutes ces raisons, je confrontais, pour décider ce qui devait l'emporter, l'idée invisible derrière son voile de la perfection de la Berma. Je m'étais dans un des plateaux de la Balance, sentir maman triste, risquer de ne pas pouvoir aller aux Champs-Élysées, dans l'autre, pâleur janséniste, mythe solaire. Mais ces mots eux-mêmes finissaient par s'obscurcir devant mon esprit, ne me disaient plus rien, perdaient tout poids. Peu à peu, mes hésitations devenaient si douloureuses que si j'avais maintenant opté pour le théâtre, ce n'eût plus été que pour les faire cesser et en être délivré une fois pour toutes. C'eût été pour abréger ma souffrance, et non plus dans l'espoir d'un bénéfice intellectuel, et en cédant à l'attrait de la perfection que je me serais laissé conduire, non vers la sage déesse, mais vers l'implacable divinité sans visage et sans nom, qui lui avait été subrepticement substituée sous son voile. Mais brusquement, tout fut changé. Mon désir d'aller entendre la Berma reçut un coup de fouet nouveau qui me permit d'attendre dans l'impatience et dans la joie cette matinée, étant allé faire devant la colonne des théâtres ma station quotidienne, depuis peu si cruelle de stylite, j'avais vu, tout humide encore, l'affiche détaillée de Phèdre qu'on venait de coller pour la première fois, et où, à vrai dire, le reste de la distribution ne m'apportait aucun attrait nouveau qui pût me décider. Mais elle donnait à l'un des buts entre lesquels oscillait mon indécision une forme plus concrète. Et comme l'affiche était datée non du jour où je la lisais, mais de celui où la représentation aurait lieu, et de l'heure même du lever du rideau, presque imminente, déjà en voie de réalisation, si bien que je sautais de joie devant la colonne, en pensant que ce jour-là, exactement à 7 heures, je serais prêt à entendre la Berma assis à ma place. Et de peur que mes parents n'eussent plus le temps d'en trouver deux bonnes pour ma grand-mère et pour moi, je ne fis qu'un bond jusqu'à la maison, cinglé que j'étais par ces mots magiques qui avaient remplacé dans ma pensée pâleur janséniste et mythe solaire. Les dames ne seront pas reçues à l'orchestre en chapeau. Les portes seront fermées à 2 heures. Hélas, cette première matinée fut une grande déception. Mon père nous proposa de nous déposer, ma grand-mère et moi, au théâtre en se rendant à sa commission. Avant de quitter la maison, il dit à ma mère « Tâche d'avoir un bon dîner. Tu te rappelles que je dois ramener de Norpois. » Ma mère ne l'avait pas oublié, et depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine, pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même au hall se faire donner les plus beaux carrés de rump steak, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange, passant 8 mois dans les montagnes de Carrare, à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ses allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage, comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietrasanta. Et dès la veille, Françoise avait envoyé cuire dans le four du boulanger, protégé de mie-de-pain comme du marbre rose, ce qu'elle appelait du jambon de New York. Croyant la langue moins riche qu'elle n'est, et ses propres oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu'elle avait entendu parler de jambon d'York, avait-elle cru, trouvant d'une prodigalité invraisemblable dans le vocabulaire qu'il pût exister à la fois York et New York, qu'elle avait mal entendu et qu'on aurait voulu dire le nom qu'elle connaissait déjà. Aussi, depuis, le mot d'York se faisait précéder, dans ses oreilles ou devant ses yeux, si elle lisait une annonce, de New, qu'elle prononçait Neve. Et c'est de la meilleure foi du monde qu'elle disait à sa fille de cuisine « Allez me chercher du jambon chez Olida. Madame m'a bien recommandé que ce soit du New York. » Ce jour-là, si Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs, mon lot était la cruelle inquiétude du chercheur. Sans doute, tant que je n'eus pas entendu la Berma, j'éprouvais du plaisir. J'en éprouvais dans le petit square qui précédait le théâtre, et dont 2 heures plus tard les marronniers dénudés allaient luire avec des reflets métalliques dès que les becs de gaz allumés éclaireraient le détail de leur ramure, devant les employés du contrôle, desquels le choix, l'avancement, le sort, dépendaient de la grande artiste, qui seule détenait le pouvoir dans cette administration, à la tête de laquelle des directeurs éphémères et purement nominaux se succédaient obscurément, et qui prirent nos billets sans nous regarder, agités qu'ils étaient de savoir si toutes les prescriptions de Madame Berma avaient bien été transmises au personnel nouveau. S'il était bien entendu que la claque ne devait jamais applaudir pour elle, que les fenêtres devaient être ouvertes tant qu'elle ne serait pas en scène, et la moindre porte fermée après, un pot d'eau chaude dissimulé près d'elle pour faire tomber la poussière du plateau. Et en effet, dans un moment, sa voiture attelée de 2 chevaux à longue crinière allait s'arrêter devant le théâtre, elle en descendrait enveloppée dans des fourrures, et répondant d'un geste maussade au salut, elle enverrait une de ses suivantes s'informer de l'avant-scène qu'on avait réservée pour ses amis, de la température de la salle, de la composition des loges, de la tenue des ouvreuses, théâtre et public n'étant pour elle qu'un second vêtement plus extérieur dans lequel elle entrerait, et le milieu plus ou moins bon conducteur que son talent aurait à traverser. Je fus heureux aussi, dans la salle même, depuis que je savais que, contrairement à ce que m'avaient si longtemps représenté mes imaginations enfantines, il n'y avait qu'une scène pour tout le monde, je pensais qu'on devait être empêché de bien voir par les autres spectateurs, comme on l'est au milieu d'une foule. Or, je me rendis compte qu'au contraire, grâce à une disposition qui est comme le symbole de toute perception, chacun se sent le centre du théâtre. Ce qui m'expliqua qu'une fois qu'on avait envoyé Françoise voir un mélodrame aux 3e galerie, elle avait assuré en rentrant que sa place était la meilleure qu'on pût avoir, et au lieu de se trouver trop loin, s'était senti intimidé par la proximité mystérieuse et vivante du rideau. Mon plaisir s'accrut encore quand je commençai à distinguer derrière ce rideau baissé des bruits confus, comme on en entend sous la coquille d'un œuf quand le poussin va sortir, qui bientôt grandirent et tout à coup, de ce monde impénétrable à notre regard, mais qui nous voyait du sien, s'adressèrent indubitablement à nous sous la forme impérieuse de trois coups aussi émouvants que des signaux venus de la planète Mars. Et ce rideau une fois levé, quand sur la scène une table à écrire et une cheminée, assez ordinaire d'ailleurs, signifièrent que les personnages qui allaient entrer seraient non pas des acteurs venus pour réciter, comme j'en avais vu une fois en soirée, mais des hommes en train de vivre chez eux, un jour de leur vie dans laquelle je pénétrais par effraction sans qu'ils puissent me voir, mon plaisir continua de durer. Il fut interrompu par une courte inquiétude. Juste comme je dressais l'oreille avant que commençât la pièce, deux hommes entrèrent par la scène, bien en colère, puisqu'ils parlaient assez fort pour que, dans cette salle où il y avait plus de 1000 personnes, on distinguât toutes leurs paroles. Tandis que dans un petit café, on est obligé de demander aux garçons ce que disent deux individus qui se collettent. Mais dans le même instant, étonné de voir que le public les entendait sans protester, submergé qu'il était par un unanime silence, sur lequel vint bientôt clapoter un rire ici, un autre là, je compris que ces insolents étaient les acteurs, et que la petite pièce, dite « levée de rideau », venait de commencer. Elle fut suivie d'un entracte si long que les spectateurs revenus à leur place s'impatientaient, tapaient des pieds. J'en étais effrayé, car de même que dans le compte-rendu d'un procès, quand je lisais qu'un homme d'un noble cœur allait venir, au mépris de ses intérêts témoigner en faveur d'un innocent, je craignais toujours qu'on ne fût pas assez gentil pour lui, qu'on ne lui marquât pas assez de reconnaissance, qu'on ne le récompensât pas richement, et qu'écœuré, il se mit du côté de l'injustice. De même, assimilant en cela le génie à la vertu, j'avais peur que la Berma, dépitée par les mauvaises façons d'un public aussi mal élevé, dans lequel j'aurais voulu au contraire qu'elle pût reconnaître avec satisfaction quelques célébrités, au jugement de qui elle eût attaché de l'importance, ne lui exprimât son mécontentement et son dédain en jouant mal. Et je regardais d'un air suppliant ces brutes trépignantes qui allaient briser dans leur fureur l'impression fragile et précieuse que j'étais venu chercher. Enfin, les derniers moments de mon plaisir furent pendant les premières scènes de Phèdre. Le personnage de Phèdre ne paraît que dans le commencement du second acte, et pourtant, dès que le rideau fut levé et qu'un second rideau, en velours rouge celui-là, se fut écarté, qui dédoublait la profondeur de la scène dans toutes les pièces où jouait l'étoile, une actrice entra par le fond qui avait la figure et la voix qu'on m'avait dit être celle de la Berma. On avait dû changer la distribution. Tout le soin que j'avais mis à étudier le rôle de la femme de Thésée devenait inutile. Mais une autre actrice donna la réplique à la première. J'avais dû me tromper en prenant celle-là pour la Berma, car la seconde lui ressemblait davantage encore, et plus que l'autre avait sa diction. Toutes deux d'ailleurs ajoutaient à leur rôle de nobles gestes que je distinguais clairement et dont je comprenais la relation avec le texte, tandis qu'elles soulevaient leur beau péplum, et aussi des intonations ingénieuses, tantôt passionnées, tantôt ironiques, qui me faisaient comprendre la signification d'un vers que j'avais lu chez moi sans apporter assez d'attention à ce qu'il voulait dire. Mais tout d'un coup, dans l'écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parut, et aussitôt, À la peur que j'eus, bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu'on la gêna en ouvrant une fenêtre, qu'on altéra le son d'une de ses paroles en froissant un programme, qu'on la disposa en applaudissant ses camarades, en ne l'applaudissant pas elle assez, à ma façon, plus absolue encore que celle de la Berma, de ne considérer dès cet instant salle, public, acteur, pièce et mon propre corps, que comme un milieu acoustique n'ayant d'importance que dans la mesure où il était favorable aux inflexions de cette voix, je compris que les deux actrices que j'admirais depuis quelques minutes n'avaient aucune ressemblance avec celles que j'étais venu entendre. Mais en même temps, tout mon plaisir avait cessé. J'avais beau tendre vers la Berma mes yeux, mes oreilles, mon esprit, pour ne pas laisser échapper une miette des raisons qu'elle me donnerait de l'admirer, je ne parvenais pas à en recueillir une seule. Je ne pouvais même pas, comme pour ses camarades, distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes, de beaux gestes. Je l'écoutais comme j'aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre elle-même avait dit en ce moment les choses que j'entendais, sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté. J'aurais voulu, pour pouvoir l'approfondir, pour tâcher d'y découvrir ce qu'elle avait de beau, arrêter, immobiliser longtemps devant moi chaque intonation de l'artiste, chaque expression de sa physionomie, du moins je tâchais à force d'agilité mentale, en ayant avant un verre mon attention tout installée et mise au point, de ne pas distraire en préparatif une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste. Et grâce à l'intensité de mon attention, d'arriver à descendre en eux aussi profondément que j'aurais fait si j'avais eu de longues heures à moi. Mais que cette durée était brève, à peine un son était-il reçu dans mon oreille qu'il était remplacé par un autre. Dans une scène où la Berma reste immobile un instant, le bras levé à la hauteur du visage, baigné grâce à un artifice d'éclairage dans une lumière verdâtre, devant le décor qui représente la mer, la salle éclata en applaudissements. Mais déjà l'actrice avait changé de place et le tableau que j'aurais voulu étudier n'existait plus. Je dis à ma grand-mère que je ne voyais pas bien, elle me passa sa lorgnette. Seulement quand on croit à la réalité des choses, user d'un moyen artificiel pour se les faire montrer n'équivaut pas tout à fait à se sentir près d'elle. Je pensais que ce n'était plus la Berma que je voyais, mais son image dans le verre grossissant. Je reposai la lorgnette, mais peut-être l'image que recevait mon œil, diminuée par l'éloignement, n'était pas plus exacte. Laquelle des deux Berma était la vraie? Quant à la déclaration à Hippolyte, j'avais beaucoup compté sur ce morceau, ou à en juger par la signification ingénieuse que ses camarades me découvraient à tout moment dans des parties moins belles, elle aurait certainement des intonations plus surprenantes que celles que chez moi, en lisant, j'avais tâché d'imaginer. Mais elle n'atteignit même pas jusqu'à celle que nos nourriciers eussent trouvée. Elle passa au rabot d'une mélopée uniforme toute la tirade, où se trouvèrent confondues ensemble des oppositions, pourtant si tranchées, qu'une tragédienne à peine intelligente, même des élèves de lycée, n'en eussent pas négligé les faits. D'ailleurs, elle la débita tellement vite que ce fut seulement quand elle fut arrivée au dernier vers que mon esprit prit conscience de la monotonie voulue qu'elle avait imposée au premier. Enfin éclata mon premier sentiment d'admiration. Il fut provoqué par les applaudissements frénétiques des spectateurs. J'y mêlai les miens en tâchant de les prolonger, afin que par reconnaissance, la Berma se surpassant, je fus certain de l'avoir entendue dans un de ses meilleurs jours. Ce qui est du reste curieux, c'est que le moment où se déchaîna cet enthousiasme du public fut, je l'ai su depuis, celui où la Berma a une de ses plus belles trouvailles. Il semble que certaines réalités transcendantes émettent autour d'elles des rayons auxquels la foule est sensible. C'est ainsi que, par exemple, quand un événement se produit, quand à la frontière une armée est en danger, ou battue, ou victorieuse, les nouvelles assez obscures qu'on reçoit et d'où l'homme cultivé ne sait pas tirer grand-chose, excitent dans la foule l'émotion qui le surprend et dans laquelle, une fois que les experts l'ont mis au courant de la véritable situation militaire, il reconnaît la perception par le peuple de cette aura qui entoure les grands événements et qui peut être visible à des centaines de kilomètres. On apprend la victoire ou après coup quand la guerre est finie ou tout de suite par la joie du concierge. On découvre un trait génial du jeu de la Berma 8 jours après l'avoir entendu par la critique ou sur le coup par les acclamations du parterre. Mais cette connaissance immédiate de la foule étant mêlée à 100 autres toutes erronées, les applaudissements tombaient le plus souvent à faux, sans compter qu'ils étaient mécaniquement soulevés par la force des applaudissements antérieurs, comme dans une tempête. Une fois que la mer a été suffisamment remuée, elle continue à grossir, même si le vent ne s'accroît plus. N'importe, au fur et à mesure que j'applaudissais, il me semblait que la Berma avait mieux joué. Au moins, disait à côté de moi une femme assez commune, elle se dépense, celle-là. Elle se frappe à se faire mal, elle court, parlez-moi de ça, c'est joué. Et heureux de trouver ces raisons de la supériorité de la Berma, tout en me doutant qu'elle ne l'expliquait pas plus que celle de la Joconde ou du Persée de Benvenuto, l'exclamation d'un paysan, c'est bien fait tout de même. C'est tout en or et du beau. Quel travail! Je partageais avec ivresse le vin grossier de cet enthousiasme populaire. Je n'en sentis pas moins le rire tomber, un désappointement que ce plaisir que j'avais tant désiré n'eût pas été plus grand, mais en même temps le besoin de le prolonger, de ne pas quitter pour jamais en sortant de la salle cette vie du théâtre qui pendant quelques heures avait été la mienne et dont je me serais arraché comme en un départ pour l'exil en rentrant directement à la maison. Si je n'avais espéré d'y apprendre beaucoup sur la Berma par son admirateur, auquel je devais qu'on m'eût permis d'aller à Phèdre, Monsieur de Norpois. Je lui fus présenté avant le dîner par mon père, qui m'appela pour cela dans son cabinet.